Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il était savant, philosophe, mathématicien, polyglotte, voyageur, faiseur de rois et lui-même pape. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui sur Europe 1 d'un grand personnage de l'an 1000. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Un maître, un esprit en avance sans doute de plusieurs siècles sur son temps. Un personnage qui, à la fin de sa vie, est devenu le pape Sylvestre II, mais que les historiens, et puis les Auvergnats également, continuent d'appeler Gerbert d'Aurillac. Il est possible qu'à cette minute même, son nom ne vous dise pas grand-chose, mais je vous promets que dans une heure, vous aurez l'impression d'avoir été un de ses amis. Alors Julia, prête pour ce grand saut au cœur du Moyen-Âge ?
Avec vous Franck, toujours.
Oui, allons-y.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
L'an 1000, un monde en pleine effervescence, un univers réputé obscur alors qu'il est en vérité tellement lumineux. Bienvenue dans la France des donjons et des dragons, des villages de chaume, des églises romanes ornées de fresques naïves et de sculptures étranges avec, vous savez, cette espèce de bestiaire halluciné. Bienvenue, mais oui, parmi les pèlerins et les ermites, les chevaliers au courage de lion, les fées et autres mélusines, n'oubliez pas que je suis poitevin, moi, les grands artisans nomades, les moines dévoués à la paix de Dieu. Quand je dis que je suis poitevin, je suis carrément né à Poitiers, à deux pas du chevet sublime entre tous de Saint-Hilaire-le-Grand. Alors j'ai beau jeu de venir vous vanter les splendeurs d'un temps oublié, j'ai frissonné devant les voussures admirables et proportions divines d'Aulnay de Saintonge. J'ai rêvé sous les chapiteaux sculptés mystérieux jusqu'à l'hermétisme qui, près des voûtes de Bénévent l'abbaye, font chanter les signes, les symboles d'un temps où l'esprit, merci Saint-Augustin, où l'esprit voulait encore dominer la matière. Je crois connaître assez bien tout ça, alors si vous êtes d'accord, laissez-moi vous servir de guide en cette 1000e année de l'ère chrétienne, année où le pape, il vient tout juste d'être élu au trône de Saint-Pierre, où le pape s'appelle Sylvestre II. Alors qui est-il, ce Sylvestre? D'où vient-il? On dit qu'il a été jadis un jeune moine auvergnat, sous le nom de Gerbert. Et puis, de ces vieilles montagnes, ce voyageur dans l'âme, quand on dit voyageur, il faut imaginer ce que c'est en l'an 1000 que de voyager. Il n'y a pas de route, hein. Et quand je dis qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas beaucoup de chemin non plus, du reste. Ce voyageur est parti pour la Catalogne, il a fréquenté des écoles épiscopales, il s'est nourri du savoir de tout un ensemble de maîtres assez extraordinaires. Et puis on le retrouve à Reims, dans une circonstance très importante, vous allez comprendre, avant d'être appelé à Rome auprès de l'empereur Othon III, dont il sera le conseiller dévoué. Son pays d'origine, c'est donc le Cantal. Le Cantal qui fait à cette époque-là partie du duché d'Aquitaine. Nous, on a bien sûr nous l'image de cette France hexagonale bien finie, bien achevée. Là, à l'époque, le Cantal fait pas partie de la France au sens propre. Il est plus précisément de Belliac, près d'Aurillac. Aurillac, c'est cette ville intéressante qui tire son nom des particules d'or que charriait la rivière locale, la Jordane, des paillettes que les Arvernes, dans l'Antiquité, recueillaient avec grand soin. Si vous vous promenez dans ces années 955 dans les parages du monastère bénédictin de Saint-Géraud, qui a été fondé juste un demi-siècle plus tôt par le seigneur du même nom, eh bien vous risquez de croiser un jeune berger, un pâtre, il a une dizaine d'années. Il passe ses journées, tout en surveillant ses moutons bien entendu, il passe ses journées à observer la nature de très près et à essayer d'en comprendre le secret, vous savez, ce don de l'observation très poussée, on le rencontre à l'origine de quasiment tous les génies. Ça, c'est très intéressant du reste, mais je ferme la parenthèse. Donc, un beau soir, à la tombée de la nuit, deux moines vont croiser ce fameux pâtre. Il est en train d'observer les étoiles, ou plus exactement, il a pris une tige de roseau, et avec cette tige, donc avec cette tige vide, évidée, il arrive à observer les étoiles, à les isoler l'une de l'autre. C'est quand même très malin, ça, pour un gamin de 10 ans. Et l'un des deux moines, en fait, c'est tout simplement l'abbé Géraud de Saint-Céré, hein, c'est l'abbé de Saint-Géraud. se trouve que c'est tellement extraordinaire que ça mérite qu'on s'intéresse à cet enfant. Alors il va rencontrer ses parents qui sont de très modestes laboureurs et il leur propose de prendre leur fils sous son aile et de lui donner une éducation. Ça, c'était le grand rôle des moines à l'époque. Si l'on en croit la tradition et notamment son historiographe le moine Richer, l'humble petit Gerbert serait donc entré au monastère de Saint-Géraud en 956. Ça fait une paille. Il est formé par un maître, l'écolâtre. L'écolâtre, c'est celui qui dirige l'école du monastère, Raymond de Lavaur. C'est un personnage qui est très bon, c'est un littéraire si vous voulez. Il est très bon en grammaire, en rhétorique, mais alors le calcul, la dialectique, ce n'est pas tellement son fort. On dit qu'à 18 ans, Gerbert aura dépassé le maître. Alors vous savez que normalement, quand on entre dans un monastère, en tout cas au Xe, XIe siècle, quand on entre dans un monastère bénédictin, c'est pour la vie. On reste attaché à sa communauté. Il faut savoir qu'en plus, Raymond s'est pris d'affection, d'une extrême affection pour ce Gerbert tellement brillant, tellement extraordinaire. Donc tout le monde voudrait le garder au monastère. Simplement, le destin de Gerbert n'est pas à Aurillac. Un jour, au cours d'un pèlerinage, voilà que Borel, c'est le comte de la Marche de Catalogne, se trouve justement au monastère de Saint-Géraud. Il est frappé par l'intelligence incroyable du jeune moine. Il veut l'emmener avec lui. Alors, la raison qu'il donne au supérieur du monastère, c'est que en Catalogne se trouve un grand nombre de manuscrits très précieux et que le jeune moinillon pourrait venir avec lui pour copier les manuscrits et les rapporter au monastère. Et voilà donc qu'au désespoir de Raymond de Lavaur, Gerbert quitte le monastère. On est en 967, il a donc 21-22 ans. On ne connaît pas les dates de naissance exactes à cette époque, évidemment. Voilà donc notre jeune moine de l'autre côté des Pyrénées, dans cette péninsule ibérique, dont toute la partie sud à l'époque est encore sous l'égide du califat de Cordoue. Or, les savants arabes et juifs d'Al-Andalus sont bien en avance sur les savants encore mal dégrossis de notre Occident chrétien. Notamment, c'est en astronomie, c'est en mathématiques que les Arabes ont beaucoup d'avance. Alors, notre Gerbert étudie tout ça, il copie, il fait copier des traités dans plusieurs abbayes catalanes, il apprend aussi à jouer de l'orgue, il apprend à manier l'astrolabe, en tout cas son ancêtre, il adopte les chiffres arabes. Il y a en Gerbert une telle étincelle qu'aucun nouveau savoir ne lui est en quelque sorte étranger. Ça le fait remarquer, ça, par l'évêque de Vic, Aton, qui devient un familier, ce qui fait qu'on voit beaucoup Gerbert au palais épiscopal, au palais comtal. Il continue à cette époque quand même à songer à rentrer dans son cantal. D'ailleurs, il écrit des lettres tout à fait filiales à Raymond de Lavaur et il avoue dans ses lettres que Saint-Géraud lui manque. Seulement voilà, le comte Borel et l'évêque Aton ont d'autres projets pour lui. Ils doivent se rendre à Rome pour supplier le pape Jean XIII d'accorder à Vic le statut de métropole et ils décident d'emmener avec eux leur petit protégé. Ils entrent dans la ville éternelle pour la Noël 970. On est à une époque de grands troubles à Rome. Les papes sont protégés plus ou moins par les troupes germaniques de l'empereur. Gerbert est très vite admis à la bibliothèque vaticane. Il rencontre le pape qui l'apprécie. Il parle de musique avec le pape et à l'automne 971, l'empereur en personne, Othon Ier, qui se veut en quelque sorte le nouveau Charlemagne et qui aime rencontrer les brillants esprits, eh bien l'empereur Othon Ier est chez le pape et voilà le pape qui présente notre petit pâtre du Cantal à l'empereur. Incroyable mais vrai, Othon Ier va choisir ce jeune homme comme précepteur de son fils, notamment pour le perfectionner en latin, parce que le fils en question, le futur Othon II, est sur le point d'épouser une princesse byzantine, Théophano, et aux yeux des gens de Byzance, le moins qu'on puisse dire, c'est que la Germanie est plutôt peuplée de barbares. Il est à noter du reste que Gerbert ne parlait pas le grec. Il parlait très bien le latin, mais pas le grec. Borel, de son côté, a obtenu satisfaction. Il prend donc congé du pape. Il rentre en Catalogne. Aton, l'évêque Aton, il ne rentre pas, lui, puisqu'il s'est fait assassiner par des brigands. Quand je vous dis que Rome n'est pas sûre à cette époque. Pour Gerbert, en revanche, entre un pape et un empereur, c'est évidemment une nouvelle vie qui commence.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
De Patres à Pape, nous retraçons aujourd'hui sur Europe 1 l'incroyable parcours de Gerbert d'Aurillac, Franck.
Gerbert devenu le précepteur, si l'on peut dire, le maître du jeune Othon II, qui s'est marié entre-temps. Alors évidemment, Gerbert a rencontré Théophano, ainsi que l'impératrice mère Adélaïde. Il rencontre aussi à la cour pontificale l'archidiacre Géranus. Ça, c'est très important parce que ce bonhomme est le bras droit du très savant et très célèbre archevêque de Reims, Adalbéron. Les deux hommes sympathisent, l'un est bon en dialectique, l'autre dans ce qu'on appelle le quadrivium, c'est-à-dire dans les domaines scientifiques, les mathématiques, donc ils échangent pas mal, et Géranus invite Gerbert à le suivre à Reims. C'est une situation bien embarrassante pour le précepteur, car son impérial élève est devenu entre-temps le nouvel empereur Othon II. Comment faire pour se libérer de cette tutelle-là? Eh bien, il va jouer la carte de l'impératrice mère. Adélaïde lui fait obtenir un congé temporaire et donc il va pouvoir suivre Géranus à Reims en 972. C'était un congé temporaire, ça va quand même durer 10 ans cette histoire, jusqu'en 982. Pour Gerbert, c'est l'heure de découvrir le royaume des Francs. Alors, c'est quand même, après avoir vécu en Catalogne et à la cour de Rome, évidemment, là, on retombe dans quelque chose de nettement moins raffiné. Mais tout de même, Gerbert se trouve à la cathédrale de Reims, dans l'école cathédrale qui est la plus réputée du royaume. Il va s'imposer là dans les deux matières principales de ce qu'on appelle le trivium, c'est-à-dire la dialectique et la rhétorique, bref, le discours, si vous voulez. Il réforme l'école, au point d'ailleurs de fonder un véritable modèle qui va perdurer jusqu'à la fondation des premières universités au XIIIe siècle. Il se charge des cours dits ex cathedra, ce qu'on appelle nous les cours magistraux, où sont formés non seulement les futurs clercs, mais aussi quelques laïcs de haut lignage, et notamment le fils d'un certain Hugues Capet. Le fils s'appelle Robert. L'un deviendra le premier roi capétien et le second deviendra le roi Robert II. Gerbert enseignera aussi au fils d'Othon II, le futur Othon III. Vous voyez à quel point il a joué un rôle essentiel dans cette période. Une anecdote qui traduit bien les dons de Gerbert pour la pédagogie. Vous savez que jusqu'ici, l'enseignement était oral, quasiment sans prise de notes. Il faisait appel à la mémoire des étudiants. On parlait, c'était des notions très abstraites. Et puis un jour, les élèves entrent dans la classe et ils se rendent compte qu'il y a là, au mur, tout un ensemble, une dizaine de parchemins qui ont été assemblés pour faire un grand tableau sur lequel Gerbert a noté les 5 partie du discours avec les articulations, les figures de rhétorique, etc. C'est la première fois qu'on voit ça. L'assistance est médusée et elle explose en applaudissements. Certains des disciples de Gerbert, je pense à Fulbert de Chartres, à Jean d'Auxerre, à Fragnon de Paris, certains de ces disciples répercuteront plus tard cet enseignement concret, cet enseignement lumineux. Mais là où le magistère de Gerbert constitue une vraie révolution, c'est dans les matières dites donc du quadrivium, dans les sciences, géométrie, musique, mathématiques, astronomie. Là, le passage de Gerbert par la Catalogne au contact des savants andalous a fait de lui un véritable passeur de savoir. Gerbert, pour le plus grand bonheur de ses élèves, ouvre de nouvelles perspectives. Il est un grand défricheur. C'est un génie, n'en doutez pas. Il va jusqu'à inventer une sorte de machine à calculer manuelle. On appelle ça l'abac. Il va jusqu'à fabriquer des astrolabes perfectionnés, qu'il échange d'ailleurs à l'occasion contre de précieux manuscrits qui viennent enrichir la bibliothèque de l'archevêché de Reims. L'archevêque lui-même, nous ne l'avons pas encore mis en scène, mais c'est donc le fameux Adalbéron. Tout de suite, Adalbéron est conquis par la personnalité et l'intelligence de Gerbert, comme les autres, j'ai envie de dire. C'est conquis aussi par son savoir, par son intelligence, par son charisme. Adalbéron de Reims ne tarde pas à faire de l'écolâtre son confident et finalement son conseiller.
Chant grégorien, le Kyrie sur Europe 1, Franck.
en 980, Adalbéron de Reims emmène donc à Rome avec lui son nouveau protégé Gerbert. C'est un retour pour Gerbert, puisqu'il connaissait évidemment la cité impériale et pontificale. Othon II accueille avec joie le retour de son ancien maître, qui en profite pour se plaindre de l'affreuse réputation que lui a faite un professeur allemand, si j'ose employer ce double anachronisme, j'aurais dire plutôt un écolâtre germain, Autric, en l'occurrence Autric de Magdebourg, qui, sur le rapport d'un ancien élève qui était passé à Reims dans la classe de Gerbert, affirmait que Gerbert était un ignorant. Othon II veut confondre cet impudent. Il le convoque à Ravenne et il organise une dispute publique, dispute que Gerbert, évidemment, remporte haut la main sous les acclamations d'une foule aussi relevée qu'enchantée de ses assauts de dialectique. L'empereur exulte. Il nomme Gerbert à 37 ans abbé de Bobbio. Bobbio, c'est une des plus riches abbayes de l'époque. Malheureusement, ce présent impérial va se révéler très vite pour Maître Gerbert un cadeau empoisonné. Il faut imaginer ce couvent de Bobbio comme un véritable panier de crabes. Les intrigues de toutes sortes, les rivalités, les vilainies y règnent en maître. Certes, la bibliothèque de l'abbaye est absolument fabuleuse, le scriptorium est de premier ordre, mais alors que de désordre dans tout ça, impossible d'y étudier et d'y méditer en paix. Gerbert n'est pas un homme de compromis, ou s'il doit l'être, il ne l'est que pour la bonne cause. Là, en l'occurrence, il va se heurter de front avec ses propres moines. Il a grosso modo tout le monde contre lui et il indispose les autorités religieuses de la province. Il va indisposer jusqu'à l'empereur lui-même par ses plaintes. Or, en 983, Othon II vient à mourir. Gerbert se dit qu'il n'a plus grand-chose à faire dans cette Italie qui le rejette. Il en profite, il abandonne Bobbio et il regagne Reims, au petit trot si je puis dire. Vous imaginez que l'archevêque Adalbéron lui fait aussitôt fête. Il ne sait pas encore, Gerbert, que ce retour à Reims va lui permettre, dans quelques années maintenant, de tutoyer l'histoire.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et le récit d'au cœur de l'histoire met à l'honneur sur Europe 1 un savant, un esprit en avance de plusieurs siècles sur son temps, Gerbert d'Aurillac.
Gerbert d'Aurillac qui donc a accompagné à Rome Adalbéron de Reims. Il faut savoir que pour ceux qui prendraient l'émission en cours, on est très moyenâgeux aujourd'hui, c'est comme ça. On est dans l'an 1000, enfin juste quelques années avant l'an 1000. Le fils de l'empereur germanique Othon II, qui donc avait été l'élève de... Othon II avait été l'élève de Gerbert. Son fils Othon III n'a que 3 ans au moment où meurt son père. Et il y a deux partis pour la régence. D'un côté, celui qu'on appelle le querelleur, qui est le duc de Bavière, soutenu par le roi des Francs, Lothaire, un carolingien. Et puis de l'autre côté, l'impératrice, Théophano, et sa belle-mère, Adélaïde. Adalbéron et surtout Gerbert vont jouer en fait un rôle majeur dans cette affaire. C'est une guerre en armes qu'il mène finalement contre le roi des Francs, un carolingien, mais tout en jouant une sorte de double jeu. Il faut, et c'est très difficile pour Adalbéron et Gerbert, être à la fois en quelque sorte sur les deux tableaux. Donc Adalbéron va faire comme s'il s'entendait bien avec Lothaire. Il n'a pas tellement le choix. Tandis que Gerbert devient l'ennemi des Carolingiens et le défenseur de leur concurrent direct en Francie, à savoir Hugues. Ce fameux Hugues qu'on va surnommer Capet parce qu'il possédait beaucoup de bénéfices conventuels, donc il revêtait plusieurs chapes. L'amitié de Hugues doit être recherchée sans faiblesse, écrit Gerbert à Adalbéron. Lorsque Lothaire meurt en mars 986, c'est bien Adalbéron qui organise ses funérailles. Mais le fils de Lothaire, Louis V, a choisi clairement son camp. À ses yeux, Adalbéron est un traître et même de la pire espèce. Il le met en accusation, il le traduit devant une assemblée de barons. Et à ce moment-là, pour Adalbéron et Gerbert, les choses vont vraiment très mal. Eh bien c'est alors, le 21 mai 987, c'est à ce moment précis que le jeune Louis V, dites donc, fait une chute de cheval très opportune en forêt de Senlis, une chute qui le tue. Vous avouerez que ça tombe bien. Évidemment, son oncle Charles de Lorraine, le dernier des Carolingiens, se présente aussitôt à Reims pour réclamer la succession. vous pouvez faire confiance à Adalberon et surtout à Gerbert dans l'ombre pour l'évincer. Finalement, c'est Hugues Capet qui est élu roi des Francs par les barons du royaume. Et c'est ainsi que Gerbert est amené à jouer le tout premier rôle dans la fondation de cette dynastie capétienne qui va durer. Au départ, elle était là à titre transitoire, provisoire. Elle va durer plus de 800 ans et se perpétuer sans interruption jusqu'à la chute de Louis XVI en 1792. Elle se prolongera même après les révolutions jusqu'à Louis-Philippe en 1848. Adalberon meurt en janvier 989. Gerbert est très malheureux à ce moment-là. Voilà ce qu'il écrit à l'un de ses correspondants. Je cite « Mon père Adalberon de sainte mémoire avait dans les affaires, dépendant de l'éternité, un tel équilibre et une telle force qu'après sa dissolution dans le principe des choses, quelle jolie façon de parler de la mort, qu'après sa dissolution dans le principe des choses, le monde, a-t-on pensé, est tombé dans le chaos initial. » Il lui succédera comme archevêque de Reims en 991, avant d'être chassé à son tour et de trouver refuge à la cour impériale. Entre-temps, évidemment, Othon III a eu le temps de grandir. Il fait bon accueil à l'ancien précepteur de son père. Il va jusqu'à nommer Gerbert archevêque de Ravenne. Ça, archevêque de Ravenne, c'est l'antichambre de la papauté. Du reste, maître Gerbert va monter sur le trône de Saint-Pierre le 2 avril 999, vous comprenez pourquoi on le surnomme le pape de l'an 1000. Il ne faudrait pas croire qu'une fois devenu pape, l'ancien berger du Cantal, l'ancien disciple de Raymond de Lavaur, l'ancien étudiant de Vic en Catalogne ait cessé de se passionner pour la connaissance. Au contraire, il continue de chercher et de faire chercher des livres rares. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire chez Gerbert d'Aurillac ? C'est qu'il aura vécu dans une époque, forcément une époque rare, où les connaissances étaient encore assez limitées et on pouvait concevoir le projet d'en avoir fait le tour complet. Eh bien, je pense qu'à sa mort, en 1003, après seulement 4 ans de règne, il était possible de dire que Sylvestre II, le pape de l'an 1000, avait fait le tour du savoir. Juste après le flash, je serai en compagnie de Jean-François Prévost qui connaît Gerbert comme personne et qui nous réserve, vous allez voir, un certain nombre de surprises.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Et jusqu'à 14h30 sur Europe 1, nous nous intéressons aujourd'hui au Moyen-Âge. Et visiblement, cette époque intéresse énormément nos auditeurs.
Oui,
Franck.
Les gens aiment bien qu'on parle de l'an 1000, je suis ravi. Quelle bonne idée de mélanger les genres, nous dit Patricia. Programmer des chants grégoriens sur Europe 1 à cette heure-ci, il faut oser. Même si Jean-Christophe nous fait, il a tout à fait raison, observer que le chant grégorien en question était tout à fait dans une esthétique fin 19e très abbaye de Solesme. Par ailleurs, Stéphanie Garnier nous dit qu'elle passe tous les jours devant Saint-Pierre d'Aunay, dont je parlais tout à l'heure, cette merveilleuse église romane. Et elle dit « Je passe devant, je ralentis, je contemple à chaque fois les couleurs de la pierre, une merveille au coucher du soleil. » C'est vrai que cette période assez méconnue et dont le seul vrai témoignage qui nous reste, en dehors de quelques très beaux manuscrits enluminés, ce sont évidemment les édifices romans. Cette période avait un sens très poussé de l'esthétique. On a eu tendance un peu à l'oublier parfois.
Et pour en parler, on vous retrouve avec votre invité qui nous a rejoint. Il s'agit de Jean-François Prévost, qui est professeur de droit à la faculté de Paris et avocat au barreau de Paris, Franck.
Et par ailleurs, on pourrait presque dire avocat de Gerbert, tant il connaît bien le personnage. Merci beaucoup Jean-François d'avoir accepté d'être des nôtres cet après-midi. Vous pourriez nous dire peut-être un mot de la sépulture de ce Gerbert d'Aurillac. Il meurt donc à Rome en l'an 1003. Il a donc régné à peine 4 ans. C'est un tout petit règne de pape. Et on l'enterre à Saint-Jean-de-Latran.
On l'enterre à Saint-Jean-de-Latran. Et on se demande même au XVIIe siècle s'il est bien mort dans sa tombe. S'il est bien mort dans sa tombe, on va la réouvrir au XVIIe siècle. Et on va s'apercevoir que le corps est intact.
Pourquoi se demande-t-on s'il est mort ?
Parce que c'est un personnage qui échappe, comme on va le voir, au temps et même peut-être à l'espace. Alors,
on dit que lorsqu'on se promène dans l'église Saint-Jean de Latran et qu'on entend des sons étranges du côté du tombeau de Gerbert d'Aurillac, c'est que le pape en fonction va mourir. C'est une légende ? On dit que notamment, dans les moments ou dans les fins de règne, quand les papes sont très malades, on voit les cardinaux tourner autour du tombeau de Gerbert.
Eh bien, écoutez, je crois que le 2 avril 2005, lorsque Jean-Paul II a rendu son âme à Dieu, on était près de la tombe de Sylvestre II. Et d'ailleurs, le 2 avril, c'est également la date à laquelle il a été nommé pape le 2 avril 1999. Donc c'est un personnage qui, on va le voir, intrigue énormément parce que c'est un personnage qui a eu un tort considérable. C'est vrai que dans la vie, c'est bien d'être un tout petit peu en avance sur son temps. Mettre
lui, il était
très
beaucoup
longtemps en avance sur son temps. Quel problème ! Voici en l'an 1000 un véritable personnage de la Renaissance.
Vous dites qu'en fait, on ne peut même pas tellement le fixer dans une période. Hein. Il est un peu de tous les temps, ce Sylvestre II.
Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il choisit ce nom ? Vous avez remarqué que c'est le premier qui change de nom, parce qu'il fait référence à Sylvestre Ier, qui était pape au moment de l'édit de Constantin, qui reconnaît donc la religion chrétienne comme la religion de l'Empire. En réalité, la vie de Sylvestre II va s'inscrire, et Gerbert d'Aurillac va s'inscrire dans un très curieux quadrilatère. Auvergne, Rome, la Hongrie, dont nous allons beaucoup parler.
Et dont moi je n'ai pas parlé du tout.
Et Senlis. Et ce quadrilatère, c'est aussi un espace spatio-temporel tout à fait invraisemblable. Nous allons peut-être avoir l'occasion de le
souligner. Mais dites-nous en quoi ? Dites-nous en quoi ?
Bon, tout d'abord, on pense que lorsque, en l'an 1000, le pape Sylvestre II a créé le royaume de Hongrie, on pense qu'il exécute une promesse qui a été faite par un ange à Attila en 452. Qu'est-ce qui s'est passé ? Attila, en 451, se promène à travers la
Donc
France.
Donc nous partons là, on
oui.
voit bien qu'on n'est pas dans une époque, mais qu'on
pas
part 5 siècles
époque.
En arrière.
On passe 5 siècles auparavant. En 451, Attila, qui, on pourra en parler, a des racines, j'allais dire, magyares, hongroises, se promène à travers la France. Il va d'échec en succès. Sainte-Geneviève,
l'arrête devant Paris.
Voilà. Un saint l'arrête également devant Lyon. Je crois que c'est Saint-Aignan qui l'arrête devant Lyon. Il commence une campagne d'Italie et il arrive au printemps 452 devant Rome. Et il s'apprête à piller la ville. Et à ce moment-là, pendant toute la nuit, le pape Léon Ier prie pour que quelque chose se passe. Il va ensuite entrer dans la tente d'Attila. Il va y passer la nuit. Attila, lui, parlait le grec
Bien sûr.
Le latin.
Il avait été élevé à Rome en partie.
Voilà. Et à l'aube, Attila va partir. Il va mourir pratiquement un an jour pour jour, après des noces peut-être arrosées ou empoisonnées. On le verra. Que se passe-t-il ? Alors, il y a une tradition qui dit que les prières du pape ont été exaucées et dans un document qui est très contesté, on dit qu'un ange est apparu à Attila pour lui dire ceci. Écoute, voici ce que le Seigneur te commande. N'entre pas avec ta colère dans la cité sainte où reposent les corps de mes apôtres. Arrête-toi et retourne sur tes pas. Pour prix de ta soumission, je te promets qu'un jour viendra où ta génération visitera Rome en toute humilité et un de tes descendants y recevra une couronne qui durera éternellement. Gerbert connaît ce texte très curieux. Et en l'an 1000, il va se retourner vers la Hongrie où il y a le duc Étienne, qui est le duc de Hongrie, qui est donné pour être un descendant d'Attila et il va le faire roi. Il va donc exaucer une très ancienne promesse ésotérique. Mais l'ésotérisme, c'est quand même le fort de ce personnage. Vous avez dit qu'il avait inventé je ne sais combien de machines. On va peut-être parler de son rôle également.
Les a inventés et perfectionnés. Mais quand vous dites que l'ésotérisme est son domaine, au départ, ça n'était pas vraiment son fort. Il va se perfectionner peu à peu dans la dialectique et la théologie. Et c'est en voulant devenir professeur, en quelque sorte, qu'il approfondit ses disciplines.
Oui, en réalité, c'est pendant les 3 années qu'il a passé en Espagne, qu'il a tout d'un coup, avec la science arabe musulmane, découvert tout d'abord les grands penseurs de l'Antiquité, hein, Cicéron, Virgile, Aristote. Hein, n'oublions pas qu'Aristote n'a été introduit en France dans l'enseignement qu'au milieu du XIIIe siècle.
Mais le Aristote que lit Gerbert est un Aristote traduit déjà en latin,
exact.
Et donc un peu parfois trahi.
Trahi, mais on a eu beaucoup de mal avec les textes d'Aristote. Hein.
En tout cas, Gerbert est bien un passeur de savoir et nous allons voir de quelle façon un certain nombre des connaissances perdues de l'époque sont revenues en Occident grâce à lui, en tout cas notamment grâce à lui.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Des cathédrales crevant le ciel comme des épées, des forêts noires que des sorcières ont envoûtées, des chevaux fous et des milliers de races humaines lancées sur nous. Du plus profond de la bohème, des crucifix dressés pour garder les campagnes des abeilles, posés au sommet des montagnes des rois enfants, conduits par des femmes inhumaines, des rois méchants, soufflant la fureur. Dieu du fond de l'univers, à des années de voie lactée, c'était la fin du millénaire, aux horloges de la chrétienté, l'apocalypse avant l'hiver, l'arrivée du Dies Irae.
On ne pouvait pas se priver de diffuser Michel Sardou l'an 1000 sur Europe 1, Franck.
Nous parlons effectivement de l'an 1000 et du grand personnage de l'an 1000, un personnage dont j'espère que vous commencez à réaliser la dimension, c'est-à-dire qu'il va bien au-delà de l'an 1000. Vous avez vu les liens qui le rattachaient, des liens spirituels avec le 5e siècle et l'époque des invasions des Huns et d'Attila, mais nous allons voir aussi d'autres liens beaucoup qui le rapprochent de nous. Jean-François Prévost, qui est notre invité, nous disait que la vie de ce personnage s'inscrivait dans un quadrilatère allant d'Aurillac à Rome, à la Hongrie et à Senlis. Alors, puisqu'on parle de Senlis, vous nous avez dit qu'il avait fait un roi de Hongrie en tant que pape, mais bien avant, en tant que bras droit de l'archevêque de Reims Adalbéron, il a donc fait un roi de France, et pas n'importe lequel, le premier, le fondateur de la dynastie capétienne, Hugues Capet. C'est l'impératrice mère Adélaïde qui lui avait conseillé, je pense, de se rapprocher de ce personnage de Hugues, de ce
oui,
comte.
Oui, parce que Adélaïde, qui était copte, on va revenir
Adélaïde
d'ailleurs.
Adélaïde était donc l'épouse. D'Othon Ier, ouais. Et la mère d'Othon II.
Adélaïde était très impressionnée par un personnage qui lui vivait, donc après le 5e siècle, au 6e siècle. C'est un personnage qui s'appelait Frambaud, qui va devenir Saint Frambourg, et qui, lui aussi, a révélé très jeune des dons exceptionnels. À 15 ans, son père était le conseiller de Clovis, à 15 ans, il a voulu l'introduire auprès de Clovis, et Clovis, séduit par le personnage, a voulu que Frébaud, on l'appelait Frébaud à ce moment-là, devienne le conseiller de son fils aîné, Childebert. Pourquoi ? Parce qu'il voulait également asseoir de façon définitive le pouvoir des Mérovingiens. Adélaïde connaît cette histoire et elle imagine que Gerbert d'Aurillac est en quelque sorte une transposition dans le temps de Frambourg.
C'est intéressant de voir que dans cette, dans ces périodes, donc du plein Moyen-Âge, on est constamment dans cette idée de résurgence, quasiment de réincarnation, en tout cas de boucle du temps. Il y a quelque chose de cyclique, comme si revenaient des personnages ou des figures archétypales.
Oui, parce que je crois que quand on pense, par exemple, à Lambille, on pense avec notre esprit d'homme du 21e siècle, mais ça n'a rien à voir. On ne sait pas exactement ce que c'est que la Terre, on ne sait pas ce que sont les astres. On pense que les cieux sont immuables. On a une vision complètement différente. Le pouvoir de l'esprit y est tout puissant.
Et Dieu partout.
Dieu est partout. Dieu est partout. Hein, un petit peu plus tard, on sait qu'en, par exemple, entre 1160 et 1260, la France va consacrer 30% de son PNB à faire des églises. 30%, imaginez.
Donc, aux yeux d'Adélaïde, pour revenir à cette affaire de Frambourg, de Saint-Frambourg, aux yeux d'Adélaïde, le nouveau Saint-Frambourg, ce serait Gerbert.
Exactement. Et comme il avait pu asseoir le pouvoir des Mérovingiens, il doit asseoir le pouvoir des Capétiens.
Donc, contre les Carolingiens.
Exactement.
Parce qu'en fait, ce que voulaient ces empereurs, ce que voulait l'impératrice mère, de même d'ailleurs que sa belle-fille, ce qu'elle voulait, c'était asseoir le pouvoir du Saint-Empire contre celui des derniers descendants de Charlemagne, en fait.
Voilà.
Hein.
Et elle pense qu'il faut deux personnages comme ça qui se répondent à travers le temps, qui sont des sortes de balises qui peuvent communiquer et qui doivent intervenir. Alors, juste encore un mot sur Saint-Frambourg. Saint-Frambourg, lui, ne va pas accepter cette mission, il va s'enfuir, il va se réfugier dans une sorte de grotte à Ivriac au bord de Seine. À ce moment-là, dit-on, se produit un miracle. Les hommes d'armes qui viennent le chercher se heurtent au fait que la Seine a monté, l'a protégé, et la Seine a formé une sorte de lac. Et c'est de là que Chrétien de Troyes va s'inspirer de ce personnage pour en faire Lancelot du Lac un petit peu plus tard, le chevalier de la Table Ronde. Donc vous voyez, on est dans un monde de mythes.
Dans un réseau de correspondance, en fait.
Les mythes sont extrêmement puissants. Et nous allons voir effectivement qu'au XXe siècle, cette fois-ci, la Hongrie, l'Auvergne et Saint-Frambourg vont encore intervenir de façon tout à fait mystérieuse.
Laquelle ?
Par l'intermédiaire de la famille de Georges Xifra.
Le pianiste ?
Le pianiste. Georges Xifra, il est né en 1921, il est hongrois. Il est hongrois. En 1950, il est pris dans les camps de concentration communistes. On le fait porteur de pierre. Sa femme, qui s'appelle Soleika, tiens, elle est copte aussi, comme Adélaïde.
Donc une chrétienne d'origine égyptienne.
Exactement.
En fait.
Sa femme me dit, vous savez, on lui a même brisé les doigts. Et regardez maintenant, il joue Liszt de façon sublime, de façon céleste. Et c'est vrai que la façon d'interpréter de Georges Xifra était extraordinaire. Dans les années 60, il se réfugie en France. En 1966, il crée le Festival de la Chaise-Dieu en Auvergne. En Auvergne. Donc un Hongrois revient en Auvergne. Là, il rencontre Malraux, qui dit au couple Xifra, il y a une chapelle, la chapelle de Saint-Frambourg qui vous attend. Vous devez y aller et la restaurer. Ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Ils la restaurent. Ils font fabriquer des vitraux exceptionnels. Et il y a la chapelle de Saint-Frambourg. Et dans le sous-sol de la chapelle se trouve effectivement la statue dite miraculeuse de Saint-Frambourg. Alors vous voyez à quel point finalement la Hongrie, l'Auvergne, une sorte de destin guide tous ces personnages pour que la boucle soit bouclée.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est en l'an 1000 et qu'à cette époque, les États-nations que nous connaissons, nous, évidemment, n'existent pas. Et même si les traditions culturelles, si les traditions linguistiques sont déjà, ont déjà imprégné cette ère-là, tous les rapports géographiques sont différents, évidemment, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pas du tout les liens de communication que nous connaissons aujourd'hui.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et nous passons quelques minutes encore avec Gerbert d'Aurillac, Franck.
Oh là là, ces quelques minutes me déplaisent beaucoup. J'aurais bien aimé que ça dure encore longtemps car nous avons beaucoup à dire. On était en train de dire hors micro avec Jean-François Prévost que décidément cette chapelle de Saint-Frambourg et cette ville de Senlis ont joué un rôle essentiel puisque c'est là que se passe évidemment l'avènement du Capet.
Oui, c'est là qu'il est proclamé roi. C'est un endroit qui est identifié et on dit que ce sont des sorciers qui ont repérer l'endroit parce qu'il y a un géomagnétisme exceptionnel. D'ailleurs, la NASA est venue examiner ce lieu, figurez-vous.
Alors, pour préparer cette émission, je me suis un peu plongé dans la diplomatie d'Adalbéron et de Gerbert d'Aurillac. Et c'est d'une complexité folle, ce qui fait que j'en ai quasiment pas parlé dans mon récit pour ne pas trop embrouiller les auditeurs, mais je me suis rendu compte que c'était un homme politique redoutable et même retors, ce Gerbert. Il est capable de tenir à trois interlocuteurs différents, trois discours totalement différents en même temps, avec des lettres datées du même jour.
Oui, et en même temps, puisqu'il va créer donc le royaume de Hongrie et le royaume de Pologne...
En tant que pape, un peu plus tard.
En tant que pape. Oui, et donc à ce moment-là, il va commencer à percevoir le rôle que le Saint-Siège aura comme puissance spirituelle sur les futurs États-nations qui n'apparaissent pas encore. Hein. Ce sont encore des concepts féodaux. Mais c'est lui qui commence à engendrer en quelque sorte le pouvoir spirituel que le Saint-Siège aura pendant plusieurs siècles sur les puissances temporelles.
Alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'introduction en Occident des chiffres arabes, qui d'ailleurs n'ont d'arabe que le nom puisqu'ils sont indiens d'origine. Ouais. Je vous ai parlé de l'abaque, A-B-A-Q-E, c'est-à-dire cet ancêtre de la machine à calculer, une sorte de boulier occidental inventé par Gerbert d'Aurillac. Il a également été à l'origine du balancier des pendules. Bref, c'est une sorte de Léonard de Vinci avant l'heure. Ce personnage, un génie universel, s'il est un domaine, puisqu'il nous reste très peu de temps, Jean-François Prévost, s'il est un domaine dans lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est celui de la musique. Il avait établi une théorie des cordes musicales, ça c'est assez intéressant, donc il avait déjà une notion des ondes musicales, en quelque sorte.
Oui, et tout d'abord, trait de génie. Il a vu le rapport entre l'arithmétique et la musique.
C'est ça.
Entre l'arithmétique et le solfège. Il aurait été aussi à l'origine de des grandes transcriptions actuelles du solfège. Il aurait vu effectivement qu'il y a un monde mathématique, comme disait Cantor.
Il était un des tout premiers à jouer de l'orgue, qui venait d'Espagne précisément.
Oui, et surtout, la musique et les chants avaient lieu à ce moment-là dans les monastères, et il a fait entrer la musique dans les églises, ce qui au début a été considéré comme sacrilège. On ne chantait pas dans les églises, on ne chantait que dans les monastères, c'était une forme de prière. Donc il a été incroyablement novateur, et à la fois les mathématiques et la relation avec la musique, dont Rimbaud disait que la musique qui creuse le ciel, il y a une homogénéité dans sa pensée qui est tout à fait extraordinaire, et c'est un visionnaire dont on n'a pas encore réellement fait le tour, parce que c'est un personnage, et vous lui rendez honneur aujourd'hui, et j'espère que ça va déclencher beaucoup, beaucoup d'études. Vous
notamment avez... à Aurillac, il y a une belle statue de Gerbert sur la place centrale à Aurillac.
Ah, il y en a eu aussi une très très belle à Budapest, où il est cette fois-ci à cheval, et là sur cette statue, il a une tête vraiment de héros hollywoodien presque.
Ça, c'est vraiment toujours la frustration qu'on a lorsqu'on parle de ces personnages issus de ce que l'on a longtemps appelé, à tort du reste, les siècles obscurs, c'est qu'on ne sait pas à quoi ils ressemblaient physiquement. On peut imaginer que si tant de gens sont tombés sous son charme, c'est qu'il ne devait pas être mal. D'ailleurs, physiquement, il devait avoir cet esprit et ce regard assez extraordinaire qu'on imagine.
Ah, je pense que quand on devient maître en dialectique, il faut que ça s'appuie sur une personnalité physique tout à fait hors norme. Et partout où il est passé, vous faisiez allusion aux disputes dans lesquelles il est intervenu, il est toujours passé le premier.
Merci infiniment Jean-François Prévost. Je signale un très beau roman que vous avez publié chez Odile Jacob l'année dernière. C'est un thriller, ça s'appelle Credo. C'est à la fois haletant et très spirituel. Merci de nous avoir donné vos lumières sur Gerbert d'Aurillac. On se retrouve demain et dans un instant, c'est Laurent Cabrol.